Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Pour cette sixième journée de notre Ligue 1 Uber Eats chérie, on a la chance d'avoir deux derbies. À la fois le classique entre PSG Marseille et le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. Et aujourd'hui, pour m'accompagner et parler de ces deux matchs et bien sûr aussi de l'actualité de la semaine qui a été très riche, encore une fois dans le sud de la France, j'ai Thibaut qui m'accompagne. Comment tu vas, Thibaut ?
Salut Dusty, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très très bien. Voilà, je viens de revenir du boulot et je suis là pour parler de la Ligue 1 avec vous. Merci.
Nice, nickel. Bah, merci à toi Thibaut d'être avec moi aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par le premier match, le derby de la Côte d'Azur. Alors c'est vrai que c'est un match hyper intéressant puisque là on va avoir deux équipes qui sont parmi les rares équipes qui n'ont connu pour l'instant aucune défaite. Donc ça s'annonce un match, on va dire, très serré, très relevé. En tout cas, je l'espère, puisque je pense que ces deux équipes auront envie de garder leur invincibilité. Toi, Thibaut, qu'est-ce que t'attends de ce match entre Monaco et le GC Nice ?
Ben effectivement, voilà le derby de la Côte d'Azur ce vendredi. Le club du Rocher, leader du classement, comme tu l'as dit, et qui accueille son voisin, le troisième, et qui vient de s'imposer au Parc des Princes, les Niçois, la semaine dernière, avec un grand Mofi devant, qui a mis à mal la défense parisienne. J'ai encore l'image de Danilo et Skriniar en PLS, on va dire, derrière.
Terrible.
Terrible. voilà, donc tandis que Monaco, justement, a fait match nul 2-2 sur la pelouse de Lorient. Pourtant, ils avaient très très bien commencé les Monégasques à Lorient. Et je sais pas, à la fin, un petit saut de déconcentration où ils ont subi et ils ont pris le but à la dernière minute de Fèvre. Voilà, alors qu'ils avaient la victoire au bout du pied. Hein. C'était une belle petite désillusion, je trouve vraiment. Ils auraient pu prendre les 3 points. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils n'auront pas de saut de concentration cette fois-ci. Sinon, face à Nice, ça pardonnera pas, je pense, contre les Aiglons, qui sont bien en place et qui sont en forme. En tout cas, ça va être un beau match, je pense. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est une affiche qui est masquée par une rivalité entre deux clubs, puisque les deux équipes sont performantes en vrai en début de saison. Hein. L'une est première.
Plutôt, ouais.
Et l'autre est troisième. Donc, toi, je ne sais pas comment tu vois ce derby. Après,
Ce qui est intéressant déjà, là, entre ce derby Monaco et Nice, j'ai un peu regardé l'historique des confrontations. C'est vrai que ces dernières années, tu as quand même, bon, sauf l'année dernière, au match retour où Monaco a pris un cinglant 3-0 de la part de Nice. Hein, mais on sait que Monaco, l'année dernière, ils n'étaient pas trop en forme. Mais de manière générale, quand même, sur ces dernières années, Monaco, ils ont l'ascendant sur Nice. Hein. Ils ont quand même beaucoup plus de victoires. Là, on va avoir deux équipes, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ça va être aussi dans la composition des deux équipes. Aujourd'hui, on sait qu'on a un Thuram qui est incertain. On ne sait pas s'il sera là.
Il est blessé à la cuisse, je crois.
Exactement.
Donc, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Logiquement,
normalement,
il sera...
Non, c'est ça. Normalement, il n'est pas là. Donc, remplacé par Rosario. Alors, Rosario, c'est un milieu défensif, c'est un autre style, peut-être un peu moins dangereux offensivement, un petit peu moins en percussion, mais très solide défensivement. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que Monaco, c'est une équipe qui est très centrale. On l'a vu hein, avec ce triangle, hein, que ce soit Ben Yedder, Minamino et Golovin, exactement.
Ça va très vite.
Ça va très très vite, c'est très très solide et c'est le jeu de Monaco. Est-ce qu'on va s'attendre à un Nice qui va jouer comme il a fait avec Paris, c'est-à-dire un bloc, peut-être pas un bloc bas défensif, j'ai pas envie de leur manquer de respect en disant qu'ils ont joué, ils ont mis le bus devant les cages et ils ont pas attaqué, au contraire, je pense qu'ils ont très bien maîtrisé leur stratégie, ils ont joué sur des contre-attaques, ils ont utilisé la rapidité de Mofi ou encore d'un Diop. Est-ce qu'on va s'attendre à ce type de confrontation entre Monaco et Nice, c'est-à-dire un Monaco qui va avoir la balle et un Nice qui va plus profiter des coups et essayer de profiter des espaces derrière la défense de Monaco.
Ben moi, en tout cas, ce que j'ai vu, hein, donc même si les, comme je t'ai dit, les Aiglons, ils restent sur 2 victoires et 2 succès de suite, les Monégasques, je pense qu'ils ont l'air bien motivés, tu vois. Comme, enfin, j'ai entendu tout à l'heure Fofana qui disait, qui a affirmé qu'ils vont essayer vraiment d'imposer leur jeu. D'imposer leur jeu et ils insistent sur vraiment sur l'important de gagner un derby. Fofana, il a dit les derbies ça se gagne et je pense qu'ils ont l'air vachement motivés pour aller pour gagner justement ce derby de la Côte d'Azur pour leurs supporters. Bon, même si on sait que à Monaco c'est pas non plus la première ambiance de France hein, mais je pense
Surtout à domicile.
ouais. Mais je pense que Fofana, il a dit qu'il était très motivé. Je pense que l'équipe, pareil. Donc je pense que ça va jouer au milieu. Ils vont les laisser venir, je pense. Et je pense qu'en contre, Monaco peut aller, peut leur poser des problèmes, je pense. Parce que les Aiglons, je pense qu'ils vont vouloir jouer, jouer, jouer. Et je pense que Monaco, avec un peu plus d'expérience, ça, il devrait leur poser aussi quelques problèmes. Donc à voir. Franchement. De toute façon, ça sera forcément un gros duel et forcément une revanche, car l'année dernière, Monaco, ils en ont pris 3, comme tu l'as dit tout à l'heure,
Ouais,
Dost.
assez
Donc voilà.
sévère.
C'est la meilleure attaque contre la meilleure défense. Donc il y aura
C'est
forcément de
ça.
l'électricité. Après, t'as Monaco à 11 points, 11 points en 5 journées. Les hommes d'Adi Hütter, voilà, ils ont pas encore perdu cette saison. Et franchement, moi, je trouve qu'ils jouent super bien, malgré le petit 2-2, la semaine dernière, là, contre Lorient. Moi, je trouve que ça joue bien, mais même si des petits sauts de concentration de temps en temps, moi, je trouve qu'ils sont en place. Donc, de toute façon, pareil pour Nice, hein. Pas encore perdu cette saison, 9 points en 5 journées. Il suffit en fait juste d'une victoire pour Nice pour passer devant Monaco, donc ça peut aussi les motiver. Voilà, après, t'as, bon, forcément, du côté de Monaco, je crois, eux, ils ont pas Ben Seghir, je crois, blessé à la hanche, et Mbolo,
C'est ça,
forcément,
ouais,
quand
toujours.
il est
Ouais,
croisé.
toujours blessé, ouais.
Et Dan Diop aussi qui est blessé. Après, je vois pas d'autres joueurs, mais en vrai, je pense qu'ils ont toutes les forces enfin, les deux équipes ont toutes les forces en leur possession pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je pense que ça va jouer au mental. Et après, voilà quoi. Ça va être un beau match, je pense, ouais.
Ouais, c'est ça, parce que moi, je t'avoue, ce qui m'impressionne aujourd'hui, hein, c'est quand même la défense de Nice. On a Dante qui reste le patriarche de la Ligue 1. Dante, il a quoi, 37 ans maintenant, quelque chose comme ça,
Ouais,
voire
c'est
même
ça.
un peu plus. Todibo qui reste quand même, qui commence à devenir l'un des cadres défensifs, en tout cas en France. Il a déjà fait une bonne saison l'année dernière. Là, il continue sur sa lancée. Sur les côtés, on a Bard et Lautomba qui a joué contre le PSG. Mais le match précédent, c'était Attal, d'ailleurs, qui avait marqué. Moi, en fait, quand je regardais comment les actions se dirigeaient entre les deux équipes, c'est deux équipes qui aiment attaquer au centre. Et surtout, c'est deux équipes qui aiment mettre un pressing sur l'équipe adverse. On le voyait, Hütter, le coach de Monaco, qui en parlait. Lui, il aime récupérer le ballon rapidement. On l'a vu sur le dernier but de Minamino, où c'est une récupération très rapide dans les 35 derniers mètres de l'équipe adverse. Et comment, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que au final, on a un peu deux équipes
Ils
qui
se
se
ressemblent un peu,
ressemblent,
ouais,
et j'ai
exactement.
peur que, ouais, voilà, au final, qu'elles se neutralisent et que l'une ou l'autre n'essaye pas vraiment de prendre de risques. Ou alors,
Donc
ça va
on
être du football champagne et ça va être dans tous les
voilà.
sens. Toi,
Donc
tu t'attends à quoi?
soit on se dirige sur un, comme tu dis, hein, soit on se dirige sur un 0-0 et les deux équipes se neutralisent pendant 90 minutes et on voit pas grand-chose, ou soit on se dirige sur un football justement champagne, il y a un but dès le début et ça se débride, la rencontre se débride quoi. Donc on peut avoir un match fou comme un match fermé de haut en bas quoi. C'est ça ouais. Le risque,
Et
mais
puis,
après bon.
toi, tu t'attends à quel compo, surtout devant, du côté de Monaco? Puisque je pense que du côté de Nice, on sait à peu près que ça va être, voilà, du Laborde, Mossi et du Diop.
Bah devant
Mais
j'ai vu
devant, à
ouais.
Monaco, il y a quand même Balogun, qui fait des belles
C'est vrai,
rentrées,
c'est vrai,
qui a
c'est vrai.
marqué d'ailleurs. Est-ce qu'on
Ben
peut
en fait,
s'attendre à voir Ben Yedder sur le banc et Balogun titulaire?
ah ben pourquoi pas, ça serait peut-être une petite surprise si après je vois pas l'entraîneur vraiment sortir Ben Yedder. Enfin voilà, c'est un homme, voilà, c'est le capi. Je le vois pas, je vois pas Hütter sortir Ben Yedder. Après peut-être assembler peut-être mettre les deux hommes Balogun et Ben Yedder sur un 4-4-2 peut-être. Mais
Ouais.
du coup tu sortirais le trio devant Minamino, Golovin, Ben Yedder là. il était c'était ça avait l'air d'être assez ça jouait bien quoi, je veux dire, contre Lorient malgré le 2-2 là.
C'est le trio du début de saison, hein. Il marche très
mais,
bien. Hein.
Mais je vois pas, je le vois pas changer maintenant contre Nice, tu vois ce que je veux dire, sur un derby. Donc je pense pas qu'on aura une surprise, peut-être Balogun qui rentrerait ou qui remplacerait Ben Yedder si il a un petit pépin physique. Mais je vois pas Balogun, après il va rentrer, ça c'est sûr, mais à quel moment, voilà. S'il est titulaire, moi je pense que c'est parce que Ben Yedder il a une petite méforme et qu'il veut pas prendre de risques. Mais sinon, moi je pense que ça sera Minamino, Golovin et Ben Yedder devant. Voilà. À moins qu'il change vraiment.
Une classique, quoi.
Une classique, je pense. Voilà.
Une classique. Mais ouais, sinon, mis à part, l'absence de Thuram côté Nice. Pas vraiment de surprise au niveau des compositions, c'est-à-dire que je pense que Monaco va se présenter dans son, 3-4-2-1 habituel. Et du coup, pour Nice, on peut s'attendre qu'elle propose la même composition qu'elle a fait face au PSG, donc encore une fois, cette fois sans Thuram, avec Bard, Dante, Todibo, Lautomba à la place d'Atal. Après,
juste pour poste, quoi, ça sera du...
C'est ça,
il va changer poste pour poste et ça sera la même. Je pense qu'il va remettre les mêmes joueurs que face au PSG. Ça changera pas, hein, je pense. Hein.
Ouais. Et Diop Mofi devant la board, Thuram, Ndiaye, nanana. Tu m'as compris. je m'entraînerai puristes, pour le prochain épisode. Les puristes ont compris et Sanson. Donc pas vraiment de surprise au niveau des deux compositions, tu penses?
Non, je pense pas Nice. Je pense pas qu'il y aura énormément de surprises. Pareil. Hein. De toute façon, comme on dit bien dans le, on change pas une équipe qui gagne, hein, logiquement.
C'est vrai.
Après, peut-être, j'ai trouvé Sanson quand même. C'est un joueur que j'adore. Et pareil, c'est un joueur qui court, qui donne beaucoup sur le terrain. Et je l'ai trouvé un peu léger quand même face au PSG. Il était un peu éteint. Bon, après, c'est vrai que c'est un milieu. Il a un travail assez ingrat. Sanson, on lui demande un peu de tout faire. Tu sais, c'est des milieux un peu à la Rongier, Veretout, tu vois, Sanson. Physiquement, je pense qu'il était un peu léger contre le PSG. C'est pour ça, je crois qu'il est sorti même au bout d'un moment.
C'est ça. C'est Boudaoui qui l'a remplacé.
Ouais. Voilà. Mais il était. Mais après, j'attends un peu plus de lui au milieu de terrain. Et je pense que s'il est bien en jambes, je pense que ça peut faire très mal au milieu Sanson. Parce que c'est un joueur vraiment qui a une grosse carapace, un gros physique. Et s'il a les jambes, ça peut faire très très mal, ouais. Donc à voir aussi à son niveau à lui, ouais.
Ok, nickel. Du coup, tes pronos pour ce petit match Monaco-Nice.
Ok, alors moi j'avais vu un pro, enfin j'ai regardé en rapide. Hein. Moi, si je devais jouer quelque chose, les amis, moi j'irais plutôt sur les deux équipes marques. Voilà, je vois bien un match serré. Les deux équipes marquent, et parce que la semaine dernière, du coup, j'avais eu si tu te souviens, j'avais eu le bon score avec Rennes-Lille sur le 2-2.
En plus, tu me le prends parce que moi j'avais dit 2-1. J'avais dit 2-1 pour Lille. Je me dis, ah, c'est bon, le score il va pas bouger, ils vont maintenir le score, et il a fallu qu'ils prennent ce but là. Enfin, bref.
Bon, il manquait juste la tête de théâtre à la toute fin, mais bon,
c'est pas passé. C'est pas passé. On peut pas tout avoir. T'as déjà eu le bon résultat, c'est vraiment pas mal. Du coup, là, sûr, pour toi, tu vois des buts des deux côtés,
je pense,
victoire de Monaco, de Nice, match nul.
Franchement, tu veux vraiment que je me mouille?
Ah, mouille-toi, allez, jette-toi. Là.
Ok,
allez.
Bah alors tu sais quoi, je vais partir sur... Je vais partir sur nul ou Nice, voilà. Juste pour l'impression qu'ils m'ont laissé contre le PSG, je vais partir sur le nul ou Nice. Je sais pas, il est coté à combien, mais si je devrais jouer, ça serait ça, et les deux équipes marquent, voilà.
Ok, très bien. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où il va y avoir des buts des deux côtés. Ça, c'est sûr. Je vois mal les deux équipes ne pas marquer. Mais moi, j'ai envie de parier sur l'équipe en forme, Monaco. Je pense que cette année, c'est leur année. Et ils font un très bon début de saison. Ils jouent aucune compétition européenne, donc ils peuvent se concentrer que sur le championnat pour l'instant. tu me diras Nice aussi. Donc, ouais, non, je pars sur un petit Monaco, une petite victoire de Monaco, on va dire, allez, 3-1.
C'est dingue, on n'a jamais les mêmes pronos, toi et moi. Mais bon, après, c'est le jeu.
C'est le jeu aussi. Hein. On est d'accord de ne pas être d'accord, comme dirait l'autre.
Exactement.
Okay, ok, très bien, très 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 bien. Bon, merci à toi. On va passer du coup au deuxième gros match de ce week-end, PSG-Marseille. Alors, c'est le classique, hein, c'est quand même le match, l'un des matchs en tout cas les plus attendus du championnat de France. La PSG-Marseille qui se passe dans des circonstances qui sont quand même assez rocambolesques. Hein. On reviendra sur la situation de Marseille dans l'actu de la semaine, en fin de podcast. Mais en termes de football, c'est vrai qu'on a aujourd'hui deux équipes qui ont quand même du mal, alors peut-être un peu plus le PSG que Marseille, à prouver, en tout cas à imposer son style, son jeu et surtout à gagner. Alors certes, Marseille est pour l'instant invaincu, c'est quand même à noter. Hein. Marseille reste invaincu,
ouais, vrai,
ils
ouais,
ont
ouais.
mis 7 buts, ils en ont pris 4. Ils sont 3e actuellement du championnat, tandis que Paris sont à 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils sont 5e actuellement et ils ont perdu contre Nice. On se souvient du match contre Nice où, malgré cette possession qu'ils ont eue, je crois que c'était plus de 65%, ils donnent l'impression d'avoir une maîtrise qu'ils ont du mal à concrétiser. Et Marseille, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même très stérile. Et on en attend surtout, au vu des joueurs sur le terrain, on en attend beaucoup plus. Donc, toi, au vu pour l'instant de leur parcours en championnat, qu'est-ce que t'attends de ce match et de ces deux équipes?
Bah, écoute, c'est vrai que, en fait, je sais pas trop quoi penser de l'OM. Hein. Bon, je vais essayer d'être objectif hein, en tant que supporter parisien. Donc voilà. C'est vrai que je sais pas quoi penser de l'OM. C'est vrai que c'est assez rocambolesque ce qui se passe en ce moment avec eux. Mais on attend toujours comme du meilleur, comme du pire, comme d'habitude hein, de toute façon. Donc c'est un week-end, voilà, week-end de classico, dimanche soir au Parc des Princes, magnifique match, un OM, je pense, qui est malade, qui se déplace au Parc des Princes. Bon, il joue l'Ajax ce soir, donc je vais regarder le match bien évidemment, donc pour voir comment ils vont jouer. Hein. J'espère que ça va bien se passer pour eux parce que je suis un peu chauvin quand même. Hein, je vais quand même un peu les supporter, voilà, en tant que Français forcément, même si je suis pour le PSG.
Oula, malheureux, fais attention à toi, hein. Il y en a qui
non, mais je respecte,
diront, peu importe soit une équipe française, on supporte pas, hein, surtout pas Marseille.
Non, hein. Vraiment, je sais pas quoi penser de cette équipe. C'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'ils ont du mal à concrétiser, en fait, tu vois. Donc ils jouent bien, mais ils ont du mal à concrétiser en fait devant, ou tu vois. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était Vitinha qui faisait des bonnes rentrées. Ouais. Donc peut-être que si un bon Vitinha devant, un bon Aubameyang, peut-être qu'il retrouverait un peu de couleur. Voilà. Après, franchement, face au PSG qui vient de gagner en Ligue des Champions, un PSG en confiance, je pense que côté PSG, tous les voyants sont au vert. Il est temps pour le PSG en plus de prendre des points, de basculer vers le haut du classement. L'OM il reste sur 2 nuls contre Toulouse et Nantes, c'est pas glorieux. Là il joue l'Ajax ce soir à l'extérieur, je sais pas comment ça va se passer, donc on verra bien. L'OM l'OM qui peut inquiéter le PSG, je vois pas, en fait, dans n'importe quel autre monde, je vois pas comment ça peut bien se passer pour l'OM dimanche soir, en fait. Donc pas de supporters de l'OM en plus dimanche soir. Ils ont été, enfin, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire, ouais. Pas de supporters pour éviter les échauffourées. Enfin, voilà, toi, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais moi, franchement, dimanche, je vois pas l'OM, enfin, surclasser le PSG, quoi, malheureusement.
Bah, je t'avoue que avec, bon, encore une fois, on en reviendra à la fin, hein, mais avec ce qui se passe en ce moment à Marseille, je ne sais pas trop quoi m'attendre. C'est vrai qu'avec Marcelino, le jeu était terne, mais on va dire qu'ils arrivaient plus ou moins à avoir des résultats. C'est vrai que bon, ils ont loupé leur qualification, en tout cas en Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Mais au-delà de ça, en championnat, ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, je ne sais plus à quoi m'attendre en termes de composition. Je regardais un peu les compositions possibles pour l'Ajax. Et c'est vrai qu'on avait un peu de tout. On avait soit un 4-4-2. J'ai pu voir que ça parlait d'un 4-4-2 avec notamment Veretout, Kongombia au milieu, avec du Harry Correa sur les côtés, donc à gauche et à droite, et du Aubameyang Ndiaye. Devant.
Excuse-moi, Dust, mais parce que je voyais qu'en fait Rongier et Veretout, finalement, ça marchait pas et les supporters, ils voulaient pas de Rongier et Veretout au milieu de terrain.
C'est
alors
ça. Après Mignon, moi, j'ai vu.
Il poussait pour ça, mais ça marchait pas.
C'est pour ça. Ouais. Après, moi, j'ai vu aussi une autre compo, du coup, cette fois en 4-3-3. Encore une fois, je t'ai dit, pour l'instant, enfin, en tout cas, au moment où on enregistre, on n'avait pas la compo finale de l'OM. Et c'est vrai que ça proposait notamment une autre compo avec cette fois un 4-3-3, donc avec une attaque Aubameyang à gauche, Vitinha en pointe, Ndiaye à droite. Ça serait pas mal. Et un milieu avec Veretout, Rongier, Unai. Et puis après, la défense classique, donc Djigui Mbemba, et puis Klose, Elodie des deux côtés. C'est vrai que moi, ce qui me surprenait beaucoup avec Marcelinho, c'est que on ne voyait pas jouer Ndiaye. On voyait, enfin en tout cas, c'était des subs hein, qui rentraient en cours de match. Unaini, pareil, alors qu'il avait déjà fait des bons matchs. Harit, pareil. En fait, t'as tous ces créateurs qui sont sur le banc et sur le terrain. T'as un Rongier et Veretout, hein, rien contre eux, qui sont moins dans la création. C'est plus des joueurs de fond, des joueurs physiques qui seront peut-être là à la récupération, mais c'est pas ces joueurs-là qui vont créer du jeu. Et aujourd'hui, je sais pas, en tout cas, ces compositions d'équipe étaient très étranges. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est expliqué aussi ce manque de jeu et cette tristesse aussi dans le jeu, quoi, de Marseille, puisque contre Toulouse, à droite, il avait titularisé Muguet. Muguet et Correa, je ne les ai pas trouvés.
Muguet, moi j'ai vu. Non, Muguet, il avait.
T'as aimé, toi, Muguet?
Tu mets pas, c'est sûr que c'est pas quelqu'un que tu mets titulaire, c'est un jeune.
C'est ça, exactement.
Tu peux faire rentrer, d'accord, il va mettre un peu de folie, tout ça, mais il l'avait mis titulaire, enfin, je crois qu'il était, il jouait titulaire, il me semble, non?
Il a joué titulaire contre Toulouse, ouais.
Oui, exactement. Donc, voilà, je veux bien, tu vois, mais bon, c'est un peu léger au bout d'un moment. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont pas forcément trouvé leur équipe type, tu vois ce que je veux dire? Et t'as beaucoup de joueurs qui se ressemblent un peu dans le jeu, enfin, on sait pas trop qui est titulaire, qui est capitaine, qui donne les ordres, tu vois ce que je veux dire? Donc, alors qu'ils ont des individualités, on va dire, de malades. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils trouvent, leur équipe, quoi, en gros. Enfin, leur équipe type.
Et tu penses que, du coup, contre le PSG, ils vont se présenter comment? Est-ce qu'ils vont, du fait de la vindicte des supporters, se dire, OK, les supporters, ils veulent du jeu, on va leur donner du jeu all-in, on part sur une composition un peu offensive, on va chercher les Parisiens, leur mettre la pression et essayer de marquer, ou ça va être le bus avec une sorte de 5-3-2 avec 5 défenseurs bien bas qui décollent pas, même si ça m'étonnerait de voir un Klose et un Lodi ne pas prendre les profondeurs, mais bon, bref. Toi, tu t'attends à quel type de composition face au PSG?
Déjà, à voir qui fait la composition. Est-ce que c'est Jean-Pierre Papin? Est-ce que c'est Abardonado?
Normalement, c'est Abardonado qui est sur le banc. Ouais. Donc, à ce qui paraît,
voilà. Bon, aux dernières nouvelles, c'était ça, la tendance. Ok, bon, alors, je pense que Abardonado, je pense qu'à mon avis, lui, il va vouloir mettre le bus, je pense, sûrement derrière. Donc après, à voir. Je sais pas. Faut déjà voir comment ça se passe ce soir face à l'Ajax et comment ils sortent de ce match-là. S'ils en prennent 2 ou 3 contre l'Ajax, ça va être mentalement, ça va être très très difficile de se relever et d'aller au parc. Donc ouais. après, à voir. Moi, c'est pour ça, je peux pas trop parler et m'avancer parce que j'attends vraiment le match de ce soir et j'attends une réaction de ce soir de Marseille, quoi. Moi, après, je les vois aller arracher l'Ajax parce que l'Ajax, même, enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Là, ces derniers matchs, ils sont même pas premiers de l'Eurodivise, là.
Non, ils sont en pleine crise, l'Ajax.
Ils sont loin, ouais, voilà. Donc là, franchement, c'est un Ajax que tu dois gagner ce match-là, là, pour te remettre un peu des couleurs. Et ensuite, là, tu penseras au PSG et là, tu pourras voir quel schéma tu joues, et quelle équipe tu mets et quel joueur tu mets, quoi, voilà, en gros.
Okay. Donc, et du coup, après, Du coup, on a quand même bien parlé de Marseille. Maintenant, on va un peu se concentrer sur le PSG. Le PSG qui a fait une très belle prestation du coup en Ligue des Champions contre aide-moi.
Dortmund.
Contre Dortmund, pardon. Ouais, je sais pas pourquoi je pensais.
Ouais,
je pensais à Séville, mais c'est Lens. Je pense au match de Lens. Contre Dortmund.
Ça va bien se passer.
Aujourd'hui, t'as quand même une équipe type qui se dégage au PSG. Alors certes, il y a certains joueurs qui doivent encore revenir de blessures, comme Nuno Mendes. On a vu Mukiele qui est revenu dans le groupe. Puis on a encore Presnel Kimpembe qui est encore absent pour consolider cette défense. Mais t'as une équipe qui se dégage. Là, pour l'instant, pour moi, t'as quand même une équipe qui se dessine avec des titulaires, notamment.
C'est juste l'attaquant de pointe. Tu peux mettre Randall, ok, Colomwani, Ramos. Tu peux mettre Ramos. J'ai trouvé son entrée super bien face à Dortmund.
Ouais.
Il revient de blessure. T'as Asensio aussi qui peut revenir de blessure.
Asensio, il est blessé pour l'instant. Mais en soi, pour toi, la compo du PSG, enfin. Ça va être quand même plutôt classique, c'est-à-dire qu'on va avoir les quatre derrière habituels, donc Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Au milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery, Ugarte. Et devant, Mbappé, Colomwani, Dembélé. Pas de surprise pour toi?
Non, je pense pas. Non, je pense qu'il y aura pas de surprise. Allez, s'il y a une surprise, c'est peut-être si Ugarte, pareil, il a une petite baisse physique, on veut le préserver, on peut mettre Danilo à la place, à la rigueur.
Ouais, mais contre Marseille, tu penses qu'il va mettre un Ugarte
Non, je pense qu'il va jouer Ugarte, mais après, tu sais, on sait jamais. Hein. Moi, je reste toujours avec des pincettes avec Ugarte, parce que c'est vrai qu'il s'est blessé, il me fait un peu peur. Alors que j'aimerais trop qu'il soit sur le terrain, tu vois, mais je me dis, à tout moment, il peut se passer un truc de ouf, tu vois, tellement il met de l'intensité dans le jeu, il va sur les mecs, tu vois, il est presse, il court. Tu te dis, à tout moment, il peut se péter. Donc, je lui souhaite pas, hein, j'espère pas, mais on sait jamais. Donc, je préfère partir avec des pincettes sur Ugarte, même si c'est notre meilleur joueur en ce moment. Enfin, allez, au milieu, je te parle. Hein. Voilà, mais non, mais normalement, il sera titulaire, il n'y aura pas de problème. Enfin, voilà.
Et si on peut avoir des craintes, moi, maintenant, ça va être au niveau de l'attaque, puisque c'est vrai qu'en ce moment, au PSG, on a un peu une Mbappé dépendance où c'est le joueur qui est le plus impliqué dans les buts du PSG. Pour l'instant, il me semble qu'il est à 7 buts, si je me trompe pas. Dembélé n'a pas marqué. Gonzalo Ramos n'a pas marqué. Colomwani, alors, certes, il vient d'arriver. Il a été titularisé pour l'instant qu'une fois. Il n'a pas marqué. Est-ce que on est dans cette Mbappé dépendance, c'est-à-dire que si Mbappé ne marque pas, les autres n'arrivent pas à marquer, d'autant plus que Dembélé, on en attend quand même une certaine qualité. Alors on le connaît, on sait que c'est un bon dribbleur, mais qu'il a énormément de mal dans la finition. Est-ce que ça peut pas être aussi la crainte de ce match en se disant que si Mbappé ne marque pas, derrière ça suit pas la route?
Non, franchement, moi je pense pas, parce que en fait on est un peu dur, je trouve, avec Dembélé, avec Ramos. C'est sûr, on attend beaucoup d'eux, mais on est un peu dur. Moi, je pense que Ramos, il a failli marquer, sauf qu'il était un peu hors jeu, hein, tu vois. Ouais. Contre Dortmund, là, et son petit piqué là qu'il met, il était à ça de marquer. Hein. Dembélé, il court, il essaie, il fait des choses, hein, Dembélé. Hein, si vous regardez bien, il court, il essaie. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il marque pas, il fait pas de passe, machin. Enfin, il a pas de passe décisive, 0-0-7, voilà. Mais quand on regarde pas, il prend le ballon, il court, il essaye de faire des choses, il provoque. Enfin voilà, c'est le seul qui, enfin pas le seul parce qu'il y a Mbappé aussi, mais il va de l'avant. Pour moi, Dembélé, je suis désolé, mais quand il va commencer à marquer, ben là on se dira, ah ouais, quel joueur quoi. Mais faut attendre un petit peu, faut être patient. Moi je pense que non, il y a des bons trucs, il y a des signes qui trompent pas. Même pareil, Ramos, faut juste, tu sais, c'est un attaquant, hein, faut qu'il soit en confiance, donc il va mettre un but, il va en mettre 2, 3, 4, enfin tu vois, il va les enchaîner, tu vois. Faut juste que voilà, là il a pas eu de chance, c'est vrai, mais non, je pense que ça peut rentrer, hein, de tous les côtés là, même s'il y a pas Mbappé. Après tu peux faire rentrer aussi le petit Barcola, je pense que ça peut faire l'affaire aussi, hein. Voilà, il provoque, il a une bonne vision du jeu, faut le faire aussi un peu jouer, hein, Barcola, hein. Donc il y a de quoi faire en vrai, hein. Donc faut pas qu'on tombe dans cette Mbappé dépendance. Je trouve que c'est pas bon en fait, parce qu'on est une équipe, c'est un collectif. Donc que si Mbappé il peut pas jouer, on est mort, tu vois ce que je veux dire. Donc on est moins bon quoi. Donc non, faut pas tomber dans cette Mbappé dépendance. Moi je pense qu'on a pour une fois qu'on a du banc, faut en profiter en vrai. Voilà. Enfin, okay. Je dis on, pardon. Pour une fois que le PSG a du banc.
Non, tu peux, t'inquiète pas, tu es un supporter du PSG déclaré, identifié, exactement, placardisé, tout le monde le sait, tu ne peux plus te cacher.
C'est bon, voilà. Non, mais j'assume totalement. Voilà.
Merci, mais, ah, c'est beau. Ok, donc, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. On voit à peu près comment le PSG joue, hein. Ses buts, c'est vrai, viennent beaucoup du centre du jeu, hein. Enfin, en tout cas, c'est là où ils tirent le plus. Moi, je t'avouerai que on a vu certaines fébrilités contre Nice du PSG. Alors, certes, la défense n'était pas la même. C'était Skriniar et Danilo. Là, on va retrouver Skriniar et Marquinhos qui ont fait quand même, en termes de duo, qui ont fait une bonne prestation contre le Borussia. On sent que Marquinhos, il se remet de plus en plus la tête à l'endroit. Il commence à de nouveau faire des très bonnes prestations. On a vu que les années précédentes, c'était un peu plus compliqué pour lui. Est-ce que tu penses que Marseille, alors, arrivera à exploiter les failles que Nice a pu exploiter lors de leur match?
Ben, franchement, je sais pas. Ils ont pas, c'est pas le même, tu vois, devant t'as Mofi, il est assez percutant, il donne la bougeotte à tous les défenseurs. Mais je vois aucun attaquant de Marseillais faire ça, en fait. Peut-être Harit à la rigueur, peut-être.
Et NDI, tu penses qu'un Harit ou NDI sur les côtés, ça peut pas provoquer et essayer d'aller chercher, je sais pas, derrière un Skriniar, hein. On sait que Skriniar, c'est quand même un joueur qui est lent. Ouais. Alors certes, là, il sera couvert par Marquinhos, hein, qui est quand même plus rapide. Mais même, on le voyait en termes de milieu de terrain, bah, aujourd'hui, quand t'arrives, à mettre beaucoup de pression sur le PSG, ils ont du mal à ressortir le ballon. Enfin, en tout cas, on l'avait vu contre Nice. Alors certes, c'est vrai qu'il y a eu un match avant et après Ugarte, hein. Quand Ugarte est rentré, on sentit que le PSG avait déjà une emprise un peu plus élevée sur le match. Mais non, toi, tu penses que ça devrait aller pour le PSG?
Ah, franchement, je pense, ouais. Je pense. Okay.
Bon, ben,
ça va être, je vois pas, en fait, même, aller peut-être sur un centre, sur un corner, Aubameyang, peut-être, ou Mbemba, ouais, derrière, qui met une tête, ou Gigo, mais je vois pas. Peut-être sur coup de pied arrêté, ils peuvent être dangereux, mais franchement, je vois pas comment, je vois pas comment ils peuvent passer Marquinhos, mais Hernandez, ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour eux. Surtout que Paris, je pense qu'ils vont garder la balle. Je pense que ça peut faire très mal. En plus, voilà, je peux rajouter juste un petit truc. C'était, en plus, l'arbitre, ça sera pas Turpin ou Le Texier cette fois-ci, parce que d'habitude c'est Turpin ou Le Texier qui arbitre les rencontres. Cette fois-ci, ça va être Willy Delageau. Donc ça sera pas Turpin, ça sera un autre. Donc à voir. Comme ça, les Marseillais seront peut-être contents et il y aura plus d'excuses, hein, du coup. et après, j'ai une petite stat aussi que je peux mettre.
Vas-y, dis-moi.
Marcelinho, en gros, il a jamais, bon, même si ça sera plus l'entraîneur de l'OM, je pense, hein, bientôt, mais il a jamais gagné un seul match.
Du tout, hein.
Luis Enrique. Sur 7 matchs, il a 6 victoires et un match nul, Luis Enrique contre Marcelinho. Donc, voilà.
Bah, ça sera toujours pas cette fois parce que je te le confirme, hein, il n'est plus l'entraîneur, lui et son staff de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de flottement, mais on en reviendra sur l'actu de la semaine, sur les 5 dernières minutes,
Entre nous, là, qui tu peux voir futur entraîneur de l'Olympique de Marseille?
Attends, entre nous. D'abord, on fait les résultats et après, on revient sur l'Olympique de Marseille. Allez, juste, on enchaîne. Tes pronos pour le match?
Alors, mes pronos pour le match. Victoire du PSG, allez, 3-0 ou 3-1.
Aïe. Voilà. Ah oui.
Aïe. Aïe, ah ouais.
Aïe, aïe, aïe.
3-0 ou 3-1. Moi, je serai au stade, perso. Donc,
ah ouais, en live, quoi.
J'espère qu'il y aura du spectacle. J'espère que Marseille va pas prendre trop l'eau. Mais je dis 3-0, mais je vois une belle victoire du PSG, en tout cas, devant les supporters.
En vrai, pour cette fois, je pense qu'on va être sur du même avis, hein, victoire du PSG, et j'ai envie de te dire 3-0.
Aussi,
je
pareil.
Je pense que ça va être clean, net, sans coupure, sans rayure, une copie parfaite.
Moi, d'habitude, j'étais assez l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais assez aussi, je me disais, ah ben Marseille, ils peuvent faire quelque chose, machin, ils viennent au PSG avec des réelles ambitions, enfin au Parc avec des réelles ambitions. Mais cette année, je sais pas, je suis serein là, sur le match. Je sais pas pourquoi, mais je suis serein, genre. Voilà.
Ouais, non, mais complètement, puisque en plus, quand tu regardes les dernières confrontations entre le PSG et Marseille, certes, le PSG a gagné. Bon, à part l'année
Ils nous
dernière,
battent il y
ils
a
ont mis
2 ans, je crois,
un 3-0 en
ou un
Coupe
an, ils
de
nous battent, ouais.
France.
Oui.
L'année dernière, ils nous battent 2-1.
Ils nous sortent.
Après, nous, on les bat, ils nous sortent, nous, on les bat au match retour 3-0. Mais mis à part ça, après post-Covid, les résultats étaient quand même assez serrés, hein. C'était des 1-0 pour Marseille, des 2-1, 2-0, enfin 0-0. Enfin, vraiment, c'était plus les scores phares qu'on a pu connaître avant le Covid. Enfin bref, merci hein, pour ton petit prono du PSG Marseille. Maintenant, on va revenir sur
Pas de problème.
l'actualité chaude de la semaine hein, pour ces 5 dernières minutes. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, lundi, une réunion entre les supporters et la direction du club, donc l'ensemble de la
C'est
direction
ça.
marseillaise était présente face aux supporters. Donc, les supporters qui avaient certains avis, réclamations, demandes vis-à-vis du jeu de l'Olympique de Marseille, hein, parce qu'ils étaient quand même assez déçus. On peut comprendre certaines choses comme l'élimination penalty cause, peut-être d'autres non. Enfin bref, il s'est avéré que cette réunion, bah, les représentants de supporters ont mis une pression telle,
Réunion exclusive.
c'est ça, on met
Au
une
centre Louis
pression
Dreyfus.
telle
Voilà.
sur la direction que Marcelinho, quand ils ont entendu ça, parce qu'il n'a pas participé à cette réunion, a été terriblement choqué de la pression et de la teneur de cette réunion. Il a décidé de démissionner dès le lendemain. Donc, mardi midi, il annonce sa démission au joueur. Il y a eu un certain flottement, parce qu'au début, sa démission n'a pas été acceptée. Finalement, elle a été actée par le club. Pendant un moment, le président de Marseille a pensé aussi à démissionner. Apparemment, toute la nuit de lundi, il aurait réfléchi à savoir est-ce qu'il partait, est-ce qu'il partait pas. Finalement, McCourt l'aurait retenu. Il y a eu cette interview auprès de la Provence où on se rend compte qu'en fait, les relations entre les représentants de supporters et l'Olympique de Marseille, en tout cas la direction de l'Olympique de Marseille, bah, elle est très compliquée. On a des supporters qui ont un certain pouvoir quand même sur le club, sur la ville, qui ont des soutiens. Et
Ça a toujours été comme
voilà,
ça. Ouais.
c'est ça a toujours été comme ça. Mais quand Longoria en parle, enfin moi j'ai vu un peu son interview sur la Provence, t'as un peu de la peine pour lui. Tu sens que le mec il est fatigué, il est épuisé quand il dit qu'il s'est fait auditionner tous ses comptes parce qu'il y avait des suspicions comme quoi il prenait de l'argent sur les transferts. Il a dû donner accès à toute sa vie pour prouver qu'il n'avait pas pris un centime juste pas sur des suspicions. Enfin, ça a fait vraiment de la peine. Finalement, il a décidé de rester. McCourt a fait un communiqué aujourd'hui pour le soutenir. Maintenant, quid de savoir ce qui va se passer? Parce que si on comprend bien,
Ouais.
Marseille, pour l'instant, ne recherche pas encore d'entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Qu'est-ce que tu as pensé de ces événements-là ces 2 derniers jours?
Ben franchement, ça ne peut rien comprendre à ce club en vrai. Après, qui voudrait les racheter après avoir vu ça en fait? Ils veulent donc ça serait bien. Enfin, moi j'ai toujours rêvé que Marseille en vrai se fasse racheter par un club ben, comme le PSG. Enfin. Je veux dire par un fonds d'investissement qatari ou arabi ou arabo-arabie saoudite là comme on peut dire donc ça tu vois mais qui même qui pourrait les racheter quoi c'est ça le truc si le club est tenu par les supporters par bon c'est je sais pas c'est trop bizarre je que dire sur la situation c'est Longoria, c'est vrai que en plus c'était un bon. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de, c'est un, il aime le club, il fait tout pour rester compétitif. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Après, j'ai pas trop compris non plus la sélection. Enfin, la sélection. Non, comment on peut dire ça, le choix Marcelinho en fait. Puis quand il y a, ça fait 5 matchs, le mec il est déjà au, enfin, il veut déjà partir quoi. Donc. Je sais pas quoi penser. Franchement, à voir, comme je te dis. Mais je crois que Marcelinho, en fait, c'était un mauvais choix depuis le début, en fait, au final. Hein. C'est un mauvais casting, tout simplement. Après, on a le droit de se tromper, hein, donc à refaire. en vrai.
Ah, mais tu penses pas quand même, ils ont été un peu durs avec lui. Enfin, certes, le jeu n'était pas chatoyant, on peut le dire, reconnaître, c'était pas intéressant, ça manquait de créativité, mais il n'avait pas des résultats catastrophiques. Alors, il y a l'élimination par le Panathinaikos, mais enfin, Marseille est toujours en Europe, il y a toujours une compétition européenne quand même à jouer.
Ouais,
ils
mais
n'ont
c'est ça,
aucune
je pense
défaite,
c'est
ils
ça,
sont
je pense
quatrième
mal
du
passé.
championnat, enfin.
C'est le fait d'être de s'être fait éliminer par le en Champions League par le Panathinaikos qui était largement prenable, on va pas se mentir. Voilà, ils ont loupé leur rentrée. Ils ont loupé leur rentrée. Voilà, ça arrive. Mais bon, après voilà, maintenant faut jouer l'Europa League et faut bien la jouer. Donc c'est pour ça on attend ce soir là pour voir comment ils vont réagir contre l'Ajax et changer de coach, mais rapidement quoi, parce qu'il a plus l'air de. Quand ça clash entre les supporters, le coach, le président, voilà, il y a un truc qui va pas quoi. Donc si ça commence comme ça, mais après ce que je comprends pas, c'est qu'ils c'est pas non plus ridicule. Je veux dire, ils perdent pas, ils font des matchs nuls, ok. C'est juste en Ligue des Champions, voilà, ils sont pas qualifiés, ça arrive. Maintenant, faut jouer l'Europa League, faut bien la jouer et c'est une belle coupe quand même. Donc voilà, faut repartir pas à zéro, mais faut repartir avec une nouvelle philosophie de jeu, je pense. C'est tout.
Ok. Bon bah, tu me posais la question avant de conclure sur qui je voyais comme futur entraîneur de l'OM, mais surtout, au-delà de me dire qui pourra entraîner l'OM, mais qui a envie de mettre les pieds dans ce bourbier actuellement, en
C'est
fait.
ça, c'est ça. Qui a envie de mettre les pieds
Parce
dans ce
que
bourbier? C'est ça.
je pourrais te citer des noms, je pourrais te
Mettre de
citer par
l'argent. De
exemple.
l'argent dans ce bourbier.
Je pourrais te citer un Blanc, je pourrais te citer un Galtier, pour des coachs un peu français, on va dire que les supporters marseillais aimeraient, surtout que c'est des gens
Ouais,
qui
peut-être un coach
sont
français, ouais.
bon, certes c'est des coachs qui sont passés par le PSG, que ce soit Blanc ou Galtier, mais ça reste des coachs quand même qui ont montré leur
Ils ont
amour pour
joué,
Marseille.
que ça soit Blanc ou Galtier, ils ont joué avec l'Olympique de Marseille dans les années.
Exactement.
Voilà, ils connaissent le club. Hein.
Ils
Donc
connaissent
moi, je
le
vois
club,
bien, c'est
mais
vrai que Galtier, pourquoi pas. Après, à voir si lui veut sortir de sa retraite, de pré-retraite.
ouais.
Non, je vais dire de son. Voilà, après, à voir. Hein. Mais je pense que mentalement, est-ce qu'il est prêt, Galtier, à reprendre une équipe, à remettre les pieds dans un bourbier comme ça? Enfin, à voir, tu vois. Je pense pas, moi, mais bon.
Ok. Bon ben Thibaut, dans tous les cas, je te remercie de m'avoir accompagné pour parler de cette sixième journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler du plus beau championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Avec plaisir.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.